En août 2016, à table, un de mes compagnons jésuites me dit « Ah bien, tu es de nouveau nommé dans une commission pontificale. » Je dis « Comment ça ?»« Ben oui, oui, sur Internet, c'est indiqué, tu es maintenant dans une nouvelle commission. » Une nouvelle parce que j'étais déjà dans la Commission théologique internationale depuis 2014, qui se compose d'une trentaine de théologiens et qui publie des textes. Cette Commission théologique internationale a été créée à 50 ans, juste après le Concile Vatican II, et il y a toujours 30 théologiens qui sont au travail et qui publient chaque fois par groupe de 10 un texte, voilà, sur des questions contemporaines, etc.
Et théologiennes ?
Et des théologiennes aussi, oui. Le pape François en a ajouté par rapport à celles qui étaient peu nombreuses. À 30 personnes, 30 personnes. Alors, bon, je suis étonné, je vais voir en effet sur Internet, et il y a une liste là de 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes. Et donc, voilà. Donc j'apprends que je suis nommé dans une commission. Personne n'avait été averti, aucun des 12 n'avait été averti. C'est une tactique du pape François, semble-t-il. Voilà, tout à coup, pops, il nomme des gens et il les invite à travailler. Alors pendant tout cet exposé, bien sûr, je ne vais pas citer des noms de personnes de cette commission, parce qu'on nous invite à la discrétion, sauf une certaine madame Phyllis Zagano, qui, elle, est une américaine des États-Unis avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui a écrit, voilà, ce livre entre autres, qui est traduit en français puisqu'elle a écrit en anglais, en portugais, on est occupé à le traduire en allemand. Alors pourquoi cette commission? Eh bien, le 12 mai 2016, donc 2 mois avant cette nomination, il y avait eu une réunion triennale de l'Union internationale des supérieurs majeurs, générales. Ce sont toutes les supérieures des congrégations religieuses féminines. Et au cours de cette réunion, une participante a posé la question au pape des ministères féminins dans l'Église. Est-ce qu'il y aura un jour des ministères féminins dans l'Église? Et le pape a dit « Oui, c'est une très bonne question, je vais y réfléchir ». Et finalement, sa réponse a été cette nomination de 12 personnes. Notre mission était d'établir historiquement les faits concernant les premiers siècles de la vie de l'Église au sujet des femmes diacres. Établir historiquement les faits. Est-ce qu'il y a eu des choses avérées, des choses tout à fait claires à ce niveau-là? Le pape ne nous demandait pas une réflexion théologique, ni de recommandations pastorales concernant ce sujet. Il voulait avoir une information solide, scientifiquement établie, pour pouvoir s'appuyer sur du concret, sur du sérieux, quelque chose qui est reconnu par une commission de 12 experts. Alors, étais-je un expert? Étais-je un expert? Les autres étaient-ils des experts? Eh bien, oui, plus ou moins quand même. Parce qu'à l'IET, nous avons eu la chance en 1996 de faire un séminaire de maîtrise sur le diaconat. Et à l'occasion de ce séminaire, moi et d'autres bien sûr, on avait travaillé sur le diaconat féminin, et cela a donné l'occasion d'un livre qui a été publié 2 ans après, « La grâce du diaconat, question actuelle autour du diaconat latin ». C'est le diaconat masculin et féminin, mais il y a un gros chapitre sur le diaconat féminin. Boras, Alphonse Boras et Bernard Potier. Voilà. Ce livre a été ensuite traduit en italien assez vite et il a été traduit récemment en portugais du Brésil. Voilà, donc c'est un sujet porteur, c'est un sujet donc qui intéresse beaucoup de monde parce que les conférences épiscopales allemandes et des États-Unis ont demandé plusieurs fois à Rome, au pape, eh bien, est-ce qu'il y a moyen de penser à une ordination de femmes diacres? De femmes diacres. Alors la réponse de Rome, si on veut, après réflexion, ça a été en 1976, un document qui a dit on ne peut pas ordonner de femmes prêtres. Mais la question n'était pas celle-là, hein, la question était diacre. Mais donc la réponse a été non, pas de femmes prêtres. Et on l'a répété en 1994 avec Ordinatio Sacerdotalis. Jean-Paul II lui-même a fait un document en disant exactement la même chose. Hein. Il a repris tous les arguments du document précédent en les nettoyant un peu de beaucoup d'arguments qui n'étaient plus très, qui avaient été fort critiqués entre-temps. Hein. Et la réponse était de nouveau la même, à la même question, la même réponse. Donc, peut-on ordonner des femmes diacres ? Réponse, pas de prêtres. Alors certains comprennent, donc la porte est ouverte pour une réflexion pour les diaconesses. D'autres disent, non, c'est évident que si on ne peut pas être ordonné prêtre, on ne peut pas être ordonné diacre. Puisque, et c'est là la question, hein, puisque le diacre, c'est pour devenir prêtre. Oui, mais il y a des diacres permanents. Oui, mais enfin, c'est quand même une exception, c'est récent, c'est pas très éprouvé, etc. Bon, il y a un peu deux écoles, hein, au moins deux, évidemment, hein, qui discutent sur le statut du diaconat permanent masculin, et c'est évident que cela a une influence sur la possibilité ou non d'un diaconat permanent féminin. Alors, cette commission était sous la houlette de Monseigneur Ladaria. Luis Ladaria, un jésuite, qui était à ce moment-là le secrétaire du cardinal-préfet, Monseigneur Müller. Le cardinal Müller, il était son secrétaire. Donc, en nous désignant le secrétaire comme notre président de commission, si on veut, on nous mettait plus ou moins sous la houlette de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont Müller était le préfet, et en même temps on ne demandait pas à Müller d'être le président de cette commission, on demandait à son secrétaire de le faire. Donc nous avons travaillé avec Ladaria. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Müller qui a été nommé le président de cette commission? Müller a écrit depuis plusieurs années plusieurs livres, dont voici par exemple le titre en allemand: Le récepteur du sacrement de l'ordre. Il est sur votre feuille. Voilà, hein, vous l'avez en allemand et en français. Le récepteur du sacrement de l'ordre, source pour la doctrine et la pratique de l'Église de ne pas dispenser, de ne dispenser le sacrement de l'ordre qu'à des hommes. Nur Männern. Nur Männern. Que à des hommes. C'est bien clair. Hein, donc voici ici 500 pages pour trouver cela. Et c'est le cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui l'écrit. Il l'a écrit bien longtemps avant d'être à ce poste. Et d'autres choses encore, hein, prêtrise et diaconat, etc. C'est toujours son leitmotiv. C'est un Allemand. En Allemagne, des gens avaient demandé l'examen de cette question, mais l'Allemagne est très divisée là-dessus. Hein, très divisée. Les États-Unis ont aussi demandé cela. Je crois qu'aux États-Unis, il y a un peu plus d'unanimité, pas d'unanimité, mais de majorité dans le sens d'un oui. Mais voilà, donc c'était difficile de demander à Müller, hein, de piloter cette commission. Donc on a demandé à Ladaria. Mais entre-temps, Ladaria, il a remplacé Müller. Hein? Quelques temps après, Müller a atteint la limite d'âge, on lui a demandé de se retirer, et c'est Ladaria qui a pris sa place. Donc finalement, nous avons été pilotés par le secrétaire, puis par le cardinal préfet lui-même. Voilà. Nous n'avions pas de date butoir. Nous nous sommes réunis les 12. Nous n'avions pas de date butoir. On ne nous a pas dit vous devez rendre votre document dans X temps. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas de la Commission théologique internationale. Là, on a une date butoir. On doit faire son travail en 5 ans. Et je vous assure que faire un texte à 10 qui soit un peu cohérent, eh bien, 5 ans, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, parce qu'il faut apprendre à se connaître. On est très différents, on vient d'horizons extrêmement différents. On est tous avec plein d'idées intéressantes et tout, mais justement, chacun tient un peu à la sienne, évidemment. Hein? Et donc, mettre d'accord 10 personnes, ou 12 personnes a fortiori, en peu de temps sur un sujet, c'est quasi impossible. Nous n'avions donc pas de date butoir. Le Saint-Père nous avait dit qu'il désirait que ça ne traîne pas, mais que nous devions prendre le temps nécessaire pour notre étude. Et, comme je vous l'ai déjà plus ou moins insinué, ce document était pour lui. Pour lui. Il voulait que ce soit un document qu'il recevrait lui-même, qui n'était pas destiné à être publié. Il voulait, lui, avoir une information solide, et il avait dit que ce document donc, pouvait être écrit librement, hein, pour le Saint-Père, qui n'allait pas être publié ensuite. Il ne demandait pas de réflexion théologique ni de recommandation pastorale. C'était les faits qu'il voulait voir bien éclaircis. Alors, vous avez le calendrier des rencontres à Rome. Je ne sais pas si ça a jamais été publié quelque part, mais enfin, moi, j'ai eu l'audace de la mettre là. Voilà. C'est pas un grand secret quand même. Voilà les quatre rencontres que nous avons eues. Nomination en août, première réunion le 25-26 novembre. Pourquoi cette date? Parce qu'il y avait en même temps une réunion de la CTI, de la Commission théologique internationale, et que quatre membres des 12 faisaient déjà partie de l'autre commission. Donc c'était des personnes que je connaissais parce que j'étais dans la commission de 30, et quatre parmi nous était aussi dans la commission de 12. Donc voilà, 25-26 novembre, c'était proche d'une réunion de la CTI, et puis 10-11 mars, 15-16 septembre, 22-23 juin, et voilà, on est arrivé au bout avec un document qui a été remis au pape à cette date-là, et puis ce document, eh ben, on n'en a plus entendu parler. Voilà, nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Était-il entre les mains du pape? On nous avait dit que oui, bon, qu'on le lui remettrait. La Daria nous avait dit également que si on voulait exprimer une opinion personnelle, on pouvait faire son papier et le joindre au papier du groupe, et que le Saint-Père verrait la différence, si on veut, entre ce qu'on avait dit ensemble et ce que chacun disait séparément. Pas de nouvelles. 3-4 mois après, une lettre de remerciement via la Daria, disant « j'ai bien reçu le texte, vous le direz au commissionnaire ». Bon, ça va, on l'a su. Mais avec Madame Phyllis Zagano, qui est une dame, c'est la seule que je citerai, je vous l'ai dit, hein, qui est une personne qui connaît très bien cela, qui est très active et qui veut vraiment faire avancer le schmilblick, bon, elle m'a embarqué dans une conférence à faire à Fordham University, l'Université des Jésuites de New York, pour le 15 janvier 2019. Elle m'a dit, voilà, j'ai pris des contacts, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, on va aller faire un peu d'informations là-bas sur ce que nous avons fait, etc. En toute discrétion, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler des personnes et du déroulement de la commission, mais ce que chacun a étudié pour soi, ben, c'est public, enfin, c'est partageable, c'est communicable. Elle et moi, nous avions quand même un petit peu de crainte, parce que justement, de ce document, on n'avait parlé nulle part. Donc on se disait, est-ce qu'on peut en parler, comment est-ce qu'on va en parler, etc. Mais je dirais que, providentiellement peut-être, une revue espagnole en décembre 2018 a donc dit, voilà, le document est arrivé entre les mains du pape. Et le pape a regardé ce document, et ce document dit ceci, cela, je ne savais pas comment ils savaient ça, ils avaient un peu inventé, je crois. Enfin, au moins, on avait, voilà, on avait dit des choses à propos de ce document, hein, plus ou moins exactes, mais enfin, voilà. C'était un peu une fuite, hein, sans doute. Mais voilà, la nouvelle était donc publiée, ça a été répercuté, et donc nous étions plus à l'aise en janvier 2019 pour parler de certaines choses. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir ce qui s'est passé à New York, eh bien il y a là, sur le site, à la page 4, l'entièreté, l'heure et demie de conférence avec 3-4 intervenants, etc., en anglais, et puis en français, une interview par un prêtre canadien, avec un beau français canadien. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'histoire. Les deux visites du pape. Donc le pape nous avait nommé. Est-ce qu'il allait venir nous dire exactement ce qu'il attendait de nous? Eh bien, deux fois il est arrivé à l'improviste. Une fois nous étions en salle de réunion à la CDF, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et il est apparu tout à coup comme ça. Et alors il s'est installé et il nous a parlé pendant 20 minutes. Il ne nous a pas interrogés, il n'y a pas eu de dialogue, mais il a dit combien il tenait vraiment à ce que nous fassions un bon travail. Il a raconté quelques souvenirs qu'il avait des études qu'il avait faites lui-même, etc. Et avec beaucoup de bonne humeur, il a dit « J'espère que vous allez me faire un bon travail et tout bon. » Ça, c'était une première fois. Et tout le monde pouvait percevoir qu'il était favorable, hein, qu'il attendait vraiment un rapport qui lui permettrait d'avancer. C'était lors de la deuxième rencontre, donc de mars, et en septembre, il est réapparu un jour à table. Nous étions à table, nous avions achevé le repas, et puis il est apparu par une petite porte derrière, on ne sait pas bien comment, il s'est installé au milieu de nous, et il a dit « Alors, comment ça avance ces travaux? Quelle est la première que je vais ordonner etc. » Oui, c'est une blague qu'il a faite plus d'une fois. Hein. « Non, d'autres, oui. » Ça dépendait des gens, évidemment. Hein. Et alors, comme j'avais été nommé... le secrétaire de la commission, je lui ai tout de suite dit, Saint-Père, écoutez, nos avis sont très différents, très divergents, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le rapport? Est-ce que je dois faire un compte-rendu de tout ce que chacun pense? Est-ce que je dois faire autre chose, etc. Parce qu'il y avait des discussions entre nous sur la manière de rédiger. Alors il a dit, non mi scandalizzo, je ne me scandalise de rien, vous devez dire tout ce que vous pensez, faites-moi un rapport complet. Ce qu'on a essayé de faire, mais ça n'a pas été facile. Donc le dossier a été remis en juin 2018. Il y a eu la conférence à New York. En avril de cette même année 2019, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai de nouveau, avec Philippe Zagano, fait une conférence à Lisbonne et à Porto. Il y a 15 jours, j'en ai fait une autre le soir du vendredi et puis l'avant-midi du samedi au Luxembourg. On va m'inviter pour aller à Paris au Centre Sèvres bientôt et j'ai déjà une date aussi pour la KUL le 28 février 2020. Il y aura tout un colloque là-dessus avec différents intervenants très savants, etc. Et moi, on ne m'a pas demandé la partie savante, on m'a demandé la partie, les impressions de quelqu'un qui a travaillé dans la commission. Donc il faudra que je sois très prudent en racontant les affaires. Au synode d'Amazonie, qui a eu lieu donc il y a quelques semaines, comme vous le savez sans doute, à Rome, le pape avait posé la question aux participants, les évêques qui étaient là, en disant « Où en sommes-nous avec cette question-là » Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il a mis au vote, mais il a mis quelque chose au vote. Hein. Les votes n'ont pas été suffisamment majoritaires pour que ça puisse passer beaucoup plus loin, mais... On m'a rapporté que beaucoup d'évêques étaient quand même très étonnés du nombre de voix positives sur cette question. Beaucoup pensaient que bon, c'était réglé, que grosse majorité allait dire non, pas question. Eh bien non, il y en a plus qu'on croyait, et beaucoup ont été étonnés de cette avancée. Ça avance, je crois, petit à petit. Et donc le pape a décidé de nommer une nouvelle commission. Alors j'ai appris ça de nouveau par les médias, comme tout le monde. Je ne sais pas si ce sera la même commission qui va devoir continuer à travailler, si ce sera une complètement nouvelle, si on va remplacer les uns ou les autres, mais dans ce cas-là, comment on va faire, ça n'en sait rien. Voilà, donc je suis dans l'expectative en me demandant ce que va se passer à propos de cette commission. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu comment on travaille à partir de l'Écriture sainte. À partir de la Bible, Ancien et surtout Nouveau Testament, bien sûr, pour argumenter ce genre de sujet. Je vous ai mis sur votre feuille de route que dans l'Ancien Testament, il y a les Lévites qui ne sont pas des prêtres. Alors ça, c'est une hypothèse que je fais, enfin j'ai lu des choses, etc. Je n'ai jamais lu d'études très approfondies là-dessus. Mais il me semble qu'on peut attirer argument de cela, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai dit dans la commission. Comme vous savez, il y a les 12 tribus d'Israël, il y en a une qui s'appelle la tribu de Lévi, cette tribu n'a pas de terre, les autres ont une terre, mais la tribu de Lévi, sa part d'héritage, c'est le Seigneur. C'est comme ça qu'on le dit, il est ma part d'héritage, et donc c'est une tribu qui est entièrement consacrée, de père en fils, au culte. Au culte. Et toute la tribu de Lévi, ce mot a donné le mot lévite, est concerné. Mais dans la tribu de Lévi, il y a encore des familles différentes. Hein. Cette tribu n'est pas complètement homogène. Il y a des familles, et certaines familles sont des familles sacerdotales, de prêtres, qui sont prêtres de père en fils. Bon, bien sûr, ils doivent s'engager, hein, prendre leur rôle au sérieux, etc. Mais ce n'est pas une vocation au sens où nous l'entendons, nous, aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas une désignation, un vote, rien de tout ça. C'est, voilà, on est de la famille des prêtres, oui, bien, on est de la famille qui n'est pas de la famille des prêtres, mais quand même de la tribu de Lévite, et donc on est un Lévite. Alors, ben comme vous savez, donc, il y a donc tout ce service, hein, du culte, du temple. Autrefois, il y a eu deux temples, maintenant il n'y en a plus. Voilà, les prêtres, les grands prêtres, les Lévites sont là consacrés au culte. Mais il n'y a pas de passage de Lévite à prêtre. Les Lévites ne deviennent pas prêtres. Mais si on veut, les prêtres sont de la tribu de Lévi. Donc voilà, ça c'est un, me semble-t-il, un argument qui pourrait faire pencher la balance du côté de être diacre et être prêtre, ce sont des choses hein, qui peuvent éventuellement communiquer, mais qui, comme telles, sont quand même différentes.
Hein. C'est quand même différent. Qu'est-ce qui certains deviennent lévites et d'autres prêtres ?
Eh bien, quand on est dans une famille de prêtres, on est prêtre. Voilà. À l'intérieur de la tribu de Lévite, il y a des familles.
Les descendants d'Aaron.
Et alors, ce sont les descendants d'Aaron qui sont les prêtres. Donc, de père en fils, parce qu'on appartient à la famille des prêtres, qui est bien sûr dans la tribu de Lévi, eh bien, on devient prêtre. On peut le devenir, ou je ne sais pas comment ça se passe exactement. Mais donc, voilà, c'est la généalogie qui règle cela. Ce n'est pas une question de vouloir devenir prêtre ou lévite, on l'est. Hein. Et quand on est lévite, on ne devient pas prêtre ensuite, ou inversement. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, c'est une hypothèse que je fais, que je n'ai pas explorée de manière archi-scientifique avec des grands exégètes et tout ça. Il me semble que ça tient la route. Hein. Voilà. Mais j'attends encore d'avoir plus de renseignements pour savoir si ça, c'est un argument qui peut être intéressant.
Bernard, excuse-moi, mais donc, quand tu dis, quand tu développes ces arguments-là, tu es en train de comparer le lévite au diacre et le prêtre au prêtre.
Exactement.
Alors tu dis que les deux ne sont pas nécessairement liés.
C'est ça que je veux dire. Ouais. Parce qu'en effet, beaucoup d'institutions de l'Église chrétienne primitive ont été calquées sur les institutions d'Israël. Hein. Donc, je dirais, dans l'Église catholique surtout, mais on tient compte de la tradition. Hein. On ne veut pas innover, on veut faire ce que le Christ nous a transmis et nous a demandé de faire. On ne se sent pas autorisé à inventer n'importe quoi. Donc, bien sûr, il faut être avec son temps, bien sûr, on peut innover, mais toujours en étant fidèle hein, à le vrai dépôt de la foi, comme dit saint Paul quelque part. Hein. C'est quelque chose qui doit être, je dirais, dans l'esprit de ce qui a été révélé. Parce que ce que le Christ nous a dit, c'est la révélation, c'est pas lui qui l'a inventé avec son intelligence humaine, c'est comme ça que nous croyons. Et donc, il faut être fidèle à cela. Hein. Ce n'est pas une fidélité bornée, mais c'est une fidélité de profondeur. Hein. Et moi, je trouve que cet argument, évidemment, est important. Et qu'il vaut, pour les protestants, il ne vaut pas. Il vaut beaucoup moins. Mais voilà, alors dans ce cas-là, ben, on part dans une autre direction. Bien. Alors, je prends dans la lettre aux Romains. Ça, c'est un argument qui vient toujours. La lettre aux Romains, vous avez là le texte. Je vous recommande, dit Paul dans sa lettre aux Romains, dans son dernier chapitre, c'est le chapitre des salutations. Donc il a fait tout son développement et maintenant il prend congé. Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconos de l'église de Sancré. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints, assistez-la en toute affaire où elle pourrait, où elle aurait besoin de vous. Aussi bien fut-elle une protectrice. C'est ainsi qu'on peut traduire le mot « prostasis » pour nombre de chrétiens et pour moi-même. Ça lui est pris ça. Et Aquilas, c'est un couple, etc., etc. Bon. Donc, on voit que la première personne qui est saluée à l'église de Rome, eh bien, c'est Phébé, notre sœur, diacre de l'église de Sancré. Et le mot « diakonos » est donc le mot grec au masculin. Le mot diakonès à cette époque n'existe pas. On verra que le mot apparaîtra plus tard, diaconissa, mais le mot est au masculin. Alors c'est assez amusant de voir que donc une femme est nommée diaconos, et que quand on lit tout le Nouveau Testament, il n'y a jamais aucun diacre que l'on cite par son nom. Hein? On parle des diacres en général, bon d'accord, mais on ne dit pas qu'un tel est diacre. Le seul dont on dit qu'il est diacre, c'est une femme.
Lesquels ?
Dans tout le chapitre des Actes, chapitre 6 des Actes, on ne parle pas de diaconos. Le mot diaconos n'apparaît pas. C'est aussi une chose étonnante. Hein? Il y a la nomination, l'institution des sept, comme on dit, hein, qui sont là pour le service des tables. Oui, je sais bien, c'est étonnant. Dans la liturgie, d'ailleurs, on applique toujours acte 6. Eh bien, relisez acte 6 en grec, si vous voulez bien. Et dites-moi où vous trouvez le mot diaconos. Vous ne trouverez pas. Alors la tradition, oui, a fait cela, l'institution des diacres. Alors c'est très important aussi parce que c'est une institution apostolique. Ce sont les apôtres qui ont inventé hein, cette institution des diacres, peut-être dans la ligne des Lévites, de Lévite peut-être, mais donc ce n'est pas le Christ qui a institué les diacres. Hein. Le Christ a institué les apôtres, les douze, certainement. Alors il y avait d'autres personnes autour, hein, il y avait les 72, il y avait des femmes, il y avait tout ce qu'on veut, mais au niveau de l'institution, il n'y a que les 12 qui ont été nommés par Jésus dans une liste qui est rapportée par plusieurs évangiles. Donc, ce mot diaconos, que veut-il dire ? Les exégètes, évidemment, ont des avis différents. Soit ça veut dire simplement le sens noble, quelqu'un qui nous a aidés, hein, diaconos, quelqu'un qui nous a aidés, qui a été... soit le sens ministériel non spécifique, soit le mot technique de diaconos, hein, celui qui a reçu l'ordination. Ordination, le mot est dangereux parce qu'on ne parle pas d'ordination là-bas. Et voilà. Les interprètes antiques, eh bien, Origène, Chrysostome, Théodoré de Cyre, Pélage, considèrent que le mot diaconos ici est pris au sens technique et que donc Phébé était quelqu'un qui avait été institué diacre dans l'église de Sancté. L'Ambrosiastère, c'est un autre texte, est opposé à cette idée dans son interprétation. Alors il y a 1 Timothée 3, c'est aussi un texte intéressant parce que dans le Nouveau Testament on parle des épiscopoi, ça veut dire les évêques, on parle des diacres, on ne parle pas des prêtres. Le mot hiéreus, prêtre, est réservé au Christ. Alors il y a des presbyteroi, ça veut dire des anciens, d'où le mot presbytre. Hein. Alors, bon, bien sûr, on voit là dans les presbyteroi peut-être les prêtres, mais le mot prêtre sacerdoce au sens hiéreus ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Alors on donne les critères, si on veut, pour choisir un bon évêque ou un bon diacre, et voilà ce qu'on dit. On va lire les versets 8 à 13. Les diacres, eux aussi, seront des hommes dignes, n'ayant qu'une parole modérée dans l'usage du vin, fuyant les profits malhonnêtes, déshonnêtes, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. On commencera par les mettre à l'épreuve, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, on les admettra aux fonctions de diacres. Que pareillement les femmes soient dignes, point médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, savoir bien gouverner leurs enfants et leur propre maison. Ceux qui remplissent bien leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une ferme assurance en la foi au Christ Jésus. Alors, on est étonné que dans cette liste de critères, hein, des vertus du diacre, tout à coup il y a un verset qui vient à propos des femmes. Que pareillement les femmes soient dignes, point médisantes, sobres, fidèles en tout. Alors, quelles sont les interprétations de ce mot, hein, de ce verset sur les femmes? Certains disent, eh bien, ce sont les femmes diacres. On a parlé des hommes diacres, maintenant on parle des femmes diacres, puis on reprend, pour tous les diacres, hommes et femmes, hein, d'autres recommandations. Ça, c'est une interprétation. D'autres disent, non, ce sont les femmes qui sont les épouses des diacres. Qui sont les épouses des diacres. D'autres disent, non, c'est une catégorie à part, ce sont les veuves. Parce qu'en effet, dans les lettres de Saint Paul, il y a rapidement un ordre des veuves qui se crée. Hein? Un ordre des veuves. Il y a aussi des recommandations de Saint Paul pour les vierges. Donc on voit que là, il y a des groupes hein, qui commencent à se constituer, les vierges, les veuves, et puis peut-être bien ces femmes qui seraient éventuellement assimilées à des diacres. Donc voilà différentes interprétations. D'autres disent non, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes doivent être dignes, non médisantes, etc. Mais alors pourquoi ce verset a été parachuté au milieu d'une liste de critères pour les diacres hein? Ah oui, mais c'est parce que le copiste a mal copié. Bon, il y a toutes sortes d'inventions, bien sûr. Hein? Mais voilà. De nouveau, je cite les auteurs qui disent qu'il s'agit vraiment de femmes diacres. Chrysostome, Théodore de Cyre, Théodore de Mopsuès, Pélage. Interprète ce texte comme vous voyez, hein, les critères pour les hommes, les critères pour les femmes, les critères pour tous. L'Ambrosiastère, de nouveau, s'oppose à cette interprétation, mais l'Ambrosiastère, il est contre tous les diacres. Il est au IVe siècle, et il n'aime pas du tout les diacres romains, qui sont devenus des gens importants, qui gèrent les finances des diocèses, etc., et qui sont arrogants et qui sont prétentieux vis-à-vis des prêtres, vis-à-vis des évêques. Donc il est contre les diacres, et donc a fortiori contre les diaconesses. Hein. Voilà, donc quand on lit la littérature, on trouve toutes sortes d'avis. Hein. C'est pas évidemment, ça ne remplit pas des pages et des pages, mais on a des avis très précis. Alors dans Galates, vous avez aussi un autre argument intéressant, où l'on dit que les chrétiens, si on veut, eh bien, sont justifiés par la foi et qu'ils sont baptisés en Christ. Et que désormais, à cause de cette foi et de ce baptême, eh bien, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Alors en grec, c'est plus précisément encore, il n'y a plus le mâle et la femelle. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Alors certains disent, ben voilà, hein, Saint Paul lui-même dit qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, donc pourquoi faire cette ségrégation, etc. Alors en fait, pour bien comprendre ce texte, il faut le remettre dans son contexte, on parle des juifs et on parle des chrétiens. Alors des juifs peuvent devenir chrétiens, bien sûr, mais certains païens peuvent devenir chrétiens. Par le baptême, par la foi, par le baptême. Or, comment devient-on juif? Comment pratique-t-on son judaïsme? Eh bien, pour les hommes, par la circoncision. On circoncit les enfants. Ça, c'est la marque du juif, mais qui ne touche que l'homme. Qui ne touche que l'homme, a fortiori. Donc, Saint Paul, ici, en parlant du baptême, dans ce contexte-ci, montre très clairement que le signe distinctif de la judéité qui ne touchait que l'homme, désormais est supprimé au profit d'un baptême qui touche l'homme et la femme, qui touche l'un comme l'autre. Et donc il y a une égalité, si on veut, de l'entrée dans la foi en Jésus-Christ qui n'est plus aussi différenciée hein, que pour le judaïsme. Ça ne veut pas dire que les femmes juives n'avaient pas la foi, mais ça veut dire qu'elles n'étaient pas comme les hommes, hein, marquées de la même manière. Alors il n'y a plus l'homme et la femme, ça veut dire il n'y a plus de différence par le baptême, on n'est pas discriminé circoncision à circoncision, hein. on est dans, tous dans le même rite si on veut, nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ. Ça ne veut donc pas dire qu'on supprime la sexualité, qu'on entre dans la théologie du gender, parce que certains disent, vous voyez, ça c'est le gender, hein. Saint Paul est pour le gender, non, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Alors autour de Jésus, il y avait les 12 apôtres qui ont été institués, c'est très important. Mais il y avait aussi bien d'autres personnes. Il y avait beaucoup d'hommes, les 72 disciples, comme on dit. Hein? Les 12 apôtres, les 72 disciples qui l'accompagnaient. Et dans Acte 1, eh bien, on procède au remplacement de Judas. Judas a abandonné son poste. Il faut qu'il y en ait 12, donc on doit nommer un 12e. Où va-t-on trouver ce 12e? Eh bien, il faut que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc, celui qui sera nommé, ce sera Matthias. Hein? On en a trouvé deux. On en a trouvé deux, Justus et Matthias. Ça veut donc dire que Justus et Matthias ont fait tout ce que les apôtres ont fait. Ils ont été avec Jésus depuis le baptême de Jean le Baptiste, avec Jésus tout le temps, jusqu'au jour où il fut enlevé, l'ascension, et ils sont devenus témoins de la résurrection. Donc il n'y a pas que les 12 qui ont fait ce parcours, je dirais. Il y en a d'autres. Donc par exemple, on en trouve 2 ici. Alors d'autres peut-être n'étaient pas tout à fait, n'avaient pas commencé tout à fait au début, ou je ne sais pas quoi. Et donc on en trouve d'autres. Des gens qui ont accompagné Jésus de manière très 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 proche pendant un temps très long. De même, il y a des femmes. Au début de Saint-Luc, du chapitre 8 de Saint-Luc, on parle des femmes qui ont accompagné Jésus et d'ailleurs qui l'aident de leur bien. Une série de femmes qui sont constamment avec les apôtres et avec lui, et donc qui sont aussi des disciples très proches. Voilà. Ça, ce sont, disons, certaines réflexions qu'on peut faire à partir du Nouveau Testament pour voir que, eh bien... il y a un parallèle à faire, que l'on peut faire plus facilement qu'on croit, entre les apôtres, ceux qui ont été désignés par Jésus, et d'autres disciples, qu'ils soient hommes ou femmes, et qu'ils sont peut-être investis de mission ensuite, après dans les débuts donc, de l'Église primitive. Voilà. Alors je passe à la troisième page. Alors là, comme vous voyez, j'ai 5 ou 6 paragraphes. Je commence par l'Orient, et puis l'Occident, et puis les conciles universels qui sont de nouveau en Orient, la législation impériale aussi, principalement, même si elle est surtout l'Empire, et puis des conciles locaux en Gaule, ça veut dire l'Occident. Donc mon parcours, c'est Orient, Occident, Orient, Occident. Pourquoi ? Parce qu'on observe, c'est très important au niveau historique, on observe un balancement. L'Orient a eu des diaconesses et a développé toute une spiritualité, etc., autour du diaconat féminin. On les voit présentes, alors qu'en Occident, lorsqu'elles apparaissent, elles sont aussi présentes, mais il y a toujours des oppositions, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des difficultés qu'on ne trouve pas du côté oriental. Donc, en effet, c'est dans le côté oriental, la Syrie et Antioche, etc., et toutes ces régions-là, où on trouve, Constantinople aussi, bien sûr, où on trouve un certain nombre de diaconesses, de femmes diacres. En Occident, il y en a aussi, mais elles sont toujours en but à une opposition de l'Église officielle, mais de l'Église locale. Bon, alors il ne faut pas s'imaginer que l'Église est organisée comme aujourd'hui. Il n'y a pas le pape de Rome qui régente, je dirais, énormément de choses. On est occupé avec des différents patriarcats à mettre en route une organisation de l'Église. Alors je prends d'abord la littérature pré-canonique et liturgique en Orient. La didascalie des apôtres. Donc ce sont toute une série de textes là, d'œuvres, dans lesquelles on trouve des passages concernant les diaconesses. Alors la didascalie des apôtres, la voici. Enfin c'est une belle couverture, mais c'est la traduction anglaise de la didascalie des apôtres. Vous voyez quand même qu'il y a quelques pages. Et c'est écrit en syriaque. C'est du syriaque, donc de l'araméen, une sorte d'hébreu si on veut. Et dans ce texte qui est assez long, comme vous voyez, on parle des veuves, on parle des diacres et on parle des diaconesses. Et donc on essaie d'organiser l'Église en disant, voilà, les vierges font ceci, les veuves font cela, doivent vivre comme ça, les diacres ceci, les diaconesses cela. C'est un texte en syriaque et dans ce texte apparaissant 4 fois le mot « veuve », 66 fois le mot « diacre » et 15 fois le mot « diaconesse ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain témoignage de choses qui se rapportent aux diaconesses. En syriaque, il y a un mot spécial pour dire « diaconesse ». Il y a un féminin du mot « diacre ». Ce qui n'existait pas en grec au début, mais c'est venu plus tard. Je vous dirai quand. Alors, ce texte qui, par parenthèse, a été traduit par une certaine Margaret Dunlop Jackson, qui était jumelle d'une autre, et c'était deux grandes érudites, hein, de je ne sais plus si c'est Oxford ou Cambridge, hein, qui connaissaient à cette époque-là le grec, l'arabe, l'hébreu, le syriaque et d'autres langues, etc. Et voilà, faisaient des traductions comme ça en anglais. Hein. C'est une traduction assez ancienne. Mais voilà, c'était donc des gens qui connaissaient ces langues. Texte très ancien, 230, qui vient de Syrie orientale. Alors, que dit ce texte? Je vous ai dit donc les mentions assez nombreuses, hein, de diacres, diaconesses, etc. Eh bien, on distingue là les veuves des diaconesses. On dit, attention, hein, il y a les veuves, il y a les diaconesses. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Eh bien, parmi les veuves, il y en a qui sont établies veuves. Donc, il y a une institution. Hein, et ensemble, elles forment l'ordre des veuves. L'ordre des veuves. Comme les prêtres forment le presbytérium aujourd'hui, par exemple, hein, dans un diocèse. Ces veuves doivent avoir au moins 50 ans. Elles sont établies non pas pour enseigner, mais pour vivre un idéal spirituel qui consiste principalement dans la continence et la prière. À côté des veuves, il y a des diaconesses. Ces diaconesses donc sont différentes. Elles ont une position analogue à celle du diacre. Mais leurs attributions ne sont pas aussi étendues. Alors que font-elles? Eh bien, principalement, elles sont au service des femmes malades pour suppléer notamment les diacres, parce qu'ils ne seraient pas suffisamment nombreux, mais surtout parce que, voilà, la culture ne permettait pas à des hommes de visiter des femmes, etc. Et donc, elles sont présentes auprès des femmes malades, et elles sont aussi présentes lors du baptême des femmes, baptême qui se faisait par immersion, et donc avec des onctions, etc. C'était les diaconesses qui faisaient cela, pour la pudeur et la bienséance. Ce texte encourage la multiplication des diaconesses en disant nous avons besoin dans nos communautés de diaconesses autant qu'il en faut, hein, eh bien il faut qu'on puisse les instituer. Un autre texte, ce sont les constitutions apostoliques écrites en grec un siècle et demi après, en Syrie occidentale, écrites en grec, mais c'est un texte plus important volumineusement que le premier, mais qui pratiquement traduit tout le premier, du syriaque en grec, et puis ajoute encore d'autres choses. Donc là, on a la plus vaste compilation liturgique et canonique de l'époque. Donc on voit que l'Église s'organise avec des textes juridiques, etc. Et là, eh bien, il y a des différences avec la didascalie, mais pas autant. Certaines veuves sont établies, mais on précise qu'elles ne doivent pas être ordonnées. Les veuves ne sont pas ordonnées. Donc on a déjà une idée de ce qu'est l'ordination. C'est un concept précis. Leur âge minimum sera de 60 ans, 50 pour la didascalie. Il leur est interdit d'enseigner dans l'Église, mais ce n'est pas interdit ailleurs. Par rapport à la didascalie, c'est un peu plus large. À côté des veuves, je parlais des veuves ici, il y a les vierges. Et enfin, il y a les diaconesses qui seront choisies de préférence parmi les vierges, sinon parmi les veuves. Elles semblent jouer un rôle, alors là c'est important, d'ailleurs dans sa première visite impromptue, là le pape nous en avait parlé, elles semblent jouer un rôle d'intermédiaire entre les femmes et les membres masculins du clergé. Donc par exemple, lorsqu'une femme avait une plainte à déposer auprès de l'évêque, eh bien elle le faisait à travers la diaconesse. Voilà, il y avait les membres masculins de la hiérarchie, qu'on n'approchait pas n'importe comment, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, hein, mais les diaconesses étaient là pour faire l'intermédiaire. Donc présenter des doléances, demander des faveurs ou je ne sais pas quoi, hein, voilà, c'était une manière de communiquer avec l'évêque. Et pour les constitutions apostoliques, ces diaconesses font indiscutablement partie du clergé. On dit clairement, hein, que c'est du clergé, elles reçoivent une ordination conférée par l'imposition des mains et la prière de l'évêque. Bon, tout ça est assez clair, hein. Il y a une imposition des mains. Alors en grec, il y a deux termes pour dire l'imposition des mains, kairotenia et kairothesia. Alors certains disent, attention, l'un est plus important que l'autre, etc. C'est vrai qu'avec le temps, ces deux mots ont pris des nuances, mais en latin, on les a tous les deux retraduits par imposition. Donc la nuance n'est quand même pas si importante, puisqu'on n'a pas trouvé que ça valait la peine de mettre deux mots latins pour traduire ces deux mots grecs. Donc, vous voyez, important, hein, ordination, imposition des mains, prière de l'évêque. Dans les constitutions apostoliques, comme dans la Didascalie, donc on a des témoignages assez favorables, hein, à ce que était une diaconesse. Dans le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un texte plus tardif encore, toujours en Syrie, eh bien là, les veuves ont reçu une ordination. Les veuves ont reçu une ordination et font partie du clergé. Elles accompagnent d'ailleurs à l'autel lors du sacrifice eucharistique. Les diaconesses, par contre, leur sont nettement inférieures. Voilà. Alors que dans les textes précédents, c'était l'inverse. Ici, ce sont les veuves qui semblent avoir la plus haute dignité. Maintenant, je passe à l'Occident. Eh bien, dans des textes contemporains, pratiquement, hein, des textes orientaux, on parle très peu ou pas du tout des femmes diacres. Dans la tradition apostolique attribuée à Hippolyte de Rome, on ne fait aucune mention des diaconesses, mais on mentionne les veuves. Et on dit qu'elles seront instituées par la parole seulement, sans imposition des mains. Donc on voit qu'il y a un rituel là qui se met plus ou moins en place. Et la prière de l'ordination est importante, l'imposition des mains est importante. Eh bien, quand on sépare, hein, les deux choses, ça veut dire qu'il y a une moindre importance du geste qui est fait. Voilà, il n'y aura pas d'imposition des mains, mais il y aura une institution par la parole. Et on utilise le mot « institution » qui n'est pas le mot « ordination ». Les vierges, quant à elles, ne seront ni nommées ni instituées. Les canons ecclésiastiques des apôtres en Égypte, considérés comme étant de l'Occident parce qu'ils sont plus sous l'influence de Rome, eh bien, s'intéressent au rôle des femmes. On dit ce que les femmes doivent faire, mais on ne mentionne pas les diaconesses. Dans les canons d'Hippolyte, on dit expressément qu'il ne faut pas ordonner les veuves. Et on ajoute que l'ordination est réservée aux hommes. Bon, si l'ordination est réservée aux hommes, ici on l'applique aux veuves, mais c'est une règle générale, hein, selon les canons d'Hippolyte. Selon l'Ambrosiaster, donc, dont je vous ai parlé, c'est un anonyme du IVe siècle, il est contre les diacres, contre leur orgueil, et le diaconat féminin, pour lui, est l'apanage des montanistes, ça veut dire des hérétiques. Il y a une secte de montants qui, eux, ordonnent des diaconesses. Ben, vous voyez, hein, les diaconesses, ça, c'est pour les hérétiques. Quoi. Ça, c'est une argumentation qui vient souvent aussi. Hein, de dire que, tiens, oui, il y a eu des femmes. Mais attention, regardez bien, hein, elles ne faisaient pas partie de la grande église, de la vraie église. Hein, elles faisaient partie d'une secte. Ou bien, voilà, elles n'étaient pas vraiment dans la bonne théologie, etc. Génade de Marseille, qui a écrit les Statuta Ecclesiae Antiqua, eh bien, connaît certainement l'existence des diaconesses en Orient, parce qu'il connaît tout, hein, mais il ne les mentionne pas dans les Statuta Ecclesiae Antiqua. C'est très étonnant, parce qu'il connaît tous les détails de tout, hein, et cela, ben, il semble qu'il ait choisi de ne pas le mentionner. Évidemment, c'est un argument par le silence, qui n'est pas très, très probant, mais c'est quand même étonnant que quelqu'un qui sait à peu près hein, tout comment s'organise l'Église ne passe ça complètement sous silence. Donc vous voyez que du côté oriental, il y a un encouragement, hein, à la multiplication des diaconesses. Là, c'est très clairement dit par un des textes là, que je vous ai dit, la Didascalie. Du côté occidental, il y a une réserve. Alors les conciles universels, que sont les conciles universels. Ce sont les conciles écuméniques, comme on dit. Il y en a en tout cas 7 qui sont communs à toutes les églises, orthodoxes, catholiques et protestants. 7 conciles, les 7 premiers conciles. Le tout premier concile, c'est le concile de Nicée, 325, qui a été convoqué par l'empereur. C'est l'empereur qui convoque le concile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, hein, c'est l'empereur qui a convoqué le concile. Et même au moment où il y avait 2 papes et 3 papes, ben, on a convoqué un concile, mais c'est aucun des papes qui a convoqué le concile, c'est l'empereur. Et c'est ça qui a d'ailleurs sorti l'église de l'Ornière, hein, de ces 2 et 3 papes. Eh bien, le canon 19 du concile de Nicée parle des diaconesses en utilisant pour la première fois dans la littérature grecque le mot diaconissa. Mais le contexte dans lequel on utilise ce mot est très compliqué. En effet, il y a justement une secte, la secte des paulinianistes, qui a des diaconesses, et on discute de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les paulinianistes qui veulent revenir à la grande église. Alors qu'ils soient des chrétiens, je dirais, laïcs, ou bien qu'ils soient des prêtres, qu'ils soient des diaconesses, qu'est-ce qu'on va leur imposer? Eh bien, à différents stades, on dit, voilà, les prêtres qui en sont dignes seront réordonnés. Attendez que je... Voilà. Donc, il s'agit de la réintégration éventuelle d'un clergé schismatique. À propos des paulinianistes, on dira, voilà, on réordonnera les clercs qui en sont dignes après les avoir rebaptisés. Donc on les rebaptise et ceux qui sont dignes de la prêtrise, ben, ils seront réordonnés. Pour les diaconesses, on dit quelque chose aussi, mais c'est très nuancé. Nous avons fait mention des diaconesses qui ont été admises à ce rang, bien qu'elles n'aient même pas une imposition des mains, de sorte qu'elles sont de toute façon au nombre des laïcs, elles aussi, on peut les réintégrer à certaines conditions. Et donc cette phrase, ben, il y a au moins 3, 4, 5 interprétations, parce que quand on parle de cette imposition, parle-t-on de l'imposition qu'on a faite avant, ou bien qu'on fera après, hein, elles ne sont pas au nombre des laïcs toutes, ou aucune, ou certaines, bon, c'est très compliqué. Mais on voit là que, hein, la réalité de diaconesse existe chez les paulinianistes, et existe dans la grande église, puisqu'on les réadmet, à certaines conditions bien sûr. Hein. Donc certainement qu'il y avait des diaconesses dans la grande église. Le concile de Chalcédoine, en 451, traite des diaconesses dans son canon 15, en disant, alors il faut bien aller jusqu'au bout de la phrase, hein, une femme ne doit pas être ordonnée diaconesse avant 40 ans. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être ordonnée, mais avant 40 ans. Et elle ne doit l'être qu'après une enquête sévère. Ce qui était le cas pour les diacres aussi. Hein. Si après avoir reçu l'ordination, avec le mot le plus significatif de l'ordination, et après avoir exercé son ministère, leiturgia, pendant quelque temps, si elle vient à se marier, outrageant la grâce de Dieu, qu'elle soit anathématisée avec celui qui s'est uni à elle. Donc ça veut dire que le célibat était imposé à ces diaconesses, hein, et que c'était important, puisque c'était le célibat qui était également imposé au clergé majeur masculin. Donc elles étaient au niveau des exigences, hein, assimilées au clergé majeur. Alors un autre concile, qui n'est pas un concile vraiment universel, le concile Introulo, dit quelque chose d'assez... amusant, enfin, pour certains, moi je ne sais pas, mais là c'était très sérieux, bien sûr, c'est pas du tout une blague. Quand un prêtre marié est promu au rang d'évêque, eh bien, il doit se séparer de sa femme, et sa femme peut être promue à la dignité de diaconesse. Voilà. Donc, il y avait un clergé marié. Il y a eu un double clergé, pratiquement de l'an 400 à l'an 1200, hein, un double clergé, mais qui subissait la pression de la loi du célibat, j'en parlerai la prochaine fois, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à 1149, à une élimination complète de la possibilité du clergé marié. On verra pourquoi, et ça joue aussi d'ailleurs sur la question des diaconesses. Donc voilà, un couple qui, où le mari est appelé à devenir évêque, eh bien voilà ce qui est proposé. Alors cette séparation n'était pas toujours une séparation contre leur volonté, hein. C'était parfois des gens mûrs qui avaient eu des enfants, etc., et qui étaient tous deux désireux de continuer à travailler pour l'Église d'une certaine manière, mais voilà, de fait, ils se séparaient et la femme pouvait être promue à la dignité de diaconesse. Alors, est-ce que ça s'est fait ? Parce qu'il ne suffit pas que des textes disent qu'on peut le faire, hein, pour que ça se fasse. Hein. Ça, c'est important aussi. Hein. Il est important de trouver des témoignages autobiographiques ou autobiographiques à ce propos. Eh bien, voilà, Sergio, l'évêque de Ravenne, consacra lui-même en 753 sa femme Euphémie, diaconesse. Voilà. C'était assez possible à l'époque que un homme consacre son fils ou sa femme, etc. Grégoire de Nazianze, un très grand théologien, eh bien, a été ordonné prêtre par son père et presque contre son gré. Hein. Donc, voilà. Mais après, bon, il a épousé évidemment sa vocation, il est devenu un très grand théologien. Hein. Mais voilà, ça se faisait comme cela. La législation impériale est aussi très intéressante. Une loi de Théodose, parce que l'Église et l'État étaient très liés, l'Église et l'Empire étaient très liés depuis 313, hein. Eh bien, une loi de Théodose, qui a d'ailleurs été révoquée très rapidement ensuite, avait fixé à 60 ans l'âge d'admission des diaconesses. L'empereur donc s'occupait de cela, hein, et il réglementait à 60 ans, mais cette loi a été révoquée parce que, visiblement, ben, l'Église ne voulait pas accepter, hein, cette mesure.
Excusez-moi.
Oui.
C'est la condition d'âge qui a été révoquée ou la possibilité d'avoir une diaconesse ?
Non, c'est pas la même chose. La question d'âge.
Ah oui, donc ça voulait dire qu'on pouvait les ordonner plus jeunes.
Voilà. Hein? C'est ça que l'Église refusait. D'ailleurs, dans ce code théodosien, il y a la question des âges. Les presbytes doivent avoir au moins 30 ans, les diacres 25, les lecteurs 18. Alors tout ça, ce sont des détails, bon, qui, à mon avis, revêtent une certaine importance, parce que ça veut dire qu'on commence à organiser les choses, à avoir une formation, hein, à avoir des critères de sélection, et voilà, ce ne sont pas des trucs complètement arbitraires, hein, on explique, et pour le diaconesse, 60 ans, non, ça c'est vraiment trop, hein, il faut avoir la possibilité de l'ordonner plus tôt. Alors, il faut bien dire qu'il y aura des exceptions, je vais vous en parler tout de suite. La compilation du code de Théodose II s'occupe d'un autre aspect qui aura aussi son importance. La question de l'héritage d'un clerc qui n'a pas fait de testament. Ah ben oui, les biens, hein, les biens de l'Église, les biens des familles. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? Si un évêque est mort sans avoir fait de testament, ou bien si tout évêque, presbytre, diacre, diaconesse, sous-diacre ou autre clerc, ou moine, ou femme qui s'est dédiée à la vie monastique, qui serait mort sans testament, bien voilà ce qu'il faut faire. Donc ces lois ne sont pas directement liées au sacrement de l'ordre, mais indiquent quand même que si on a reçu une ordination, on est pris au sérieux dans la législation au niveau des propriétés, au niveau des biens, au niveau social, etc. Alors, le plus fort, à mon avis, c'est la Novelle 3 de 535 sur le clergé de Sainte-Sophie à Constantinople. Là, eh bien, nous avons une Novelle donc, de l'Empereur qui dit ceci. Il s'agit donc de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Cette basilique ne peut pas compter plus de 425 clercs. Pas plus de 425 clercs, dont maximum 40 diaconesses. Bon, si on limite le nombre, hein, de diaconesses à 40, c'est donc qu'il y en avait plus qui auraient pu être dans le clergé de Sainte-Sophie. Et donc, sans doute, qu'il y avait constamment au moins 40 diaconesses. Donc, nous sommes bien sûr à Constantinople, en Orient. Bon, il me semble que des témoignages comme ceux-ci sont à peu près irréfutables, hein, en tout cas sur l'existence des diaconesses. Que faisaient-elles, etc., ça c'est encore autre chose. Parce que Phocius, patriarche de Constantinople au IXe siècle, dit qu'il en est bien ainsi. Hein. et qu'on continue à observer cette nouvelle de l'empereur Justinien, on se limite à 425 clercs pour la basilique. Déjà pas mal. Alors, les conciles locaux en Gaule, et voilà, le pendule va de nouveau dans l'autre sens, eh bien là, on a toutes sortes de petits conciles, hein, quand je dis petits, certains n'étaient pas d'accord dans la commission, mais de petits conciles locaux qui, eux, interdisent, au contraire, les diaconesses, à la même époque. Donc, à l'époque où Justinien dit pas plus de 425, il y a des évêques en Gaule, c'est-à-dire à Nîmes, à Orange, à Épaône, à Orléans, à Tours, qui disent pas du tout de diaconesse. On n'a pas besoin de diaconesse. Hein. C'est ça. Alors, on condamne l'admission des femmes au diaconat pratiquée dans une secte priscillianiste. Et on prévoit que leur ordination irrégulière soit annulée. Voilà ce que dit un concile local. Ce ne sont pas des conciles universels, hein, ce ne sont pas des lois impériales. En 441, à Orange, on interdit d'ordonner des diaconesses, et s'il y en a, eh bien qu'elles inclinent la tête sous la bénédiction qui est donnée au peuple. Donc on interdit, mais s'il y en a, ben voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est qu'il y en avait, quoi. Alors, donc il semble que les évêques de Gaule, ça veut dire la France, hein, eh bien, aient estimé que ce n'était pas d'utilité pastorale majeure d'avoir des diaconesses, c'est que, voilà, il était préférable de ne pas en avoir. C'était donc des initiatives jugées intempestives. Mais d'autre part, on a quand même, eh bien, par exemple, Hélaria, la fille de Saint-Rémy. La fille de Saint-Rémy, de l'évêque Saint-Rémy, Hélaria, eh bien, est nommée diaconesse. Et sainte Radegonde, qui a été une femme extraordinaire par ses fondations, etc. Bon, elle était la femme de Clotaire Ier, qui paraît-il était un homme impossible. Elle a abandonné son mari et elle a demandé à un évêque de l'ordonner diaconesse. Elle ne pouvait être ni vierge ni veuve, donc c'était diaconesse, et l'évêque l'a ordonnée. Et c'est une femme qui a été, bon, sainte, et qui donc qui a fait énormément de choses de l'ordre caritatif. Il y a trois vies de sainte Radegonde. Donc, c'est quelqu'un qui a eu vraiment un prestige à son époque. Voilà. Alors, des témoignages, je vais achever puisque le temps est passé, des témoignages littéraires, des historiens, des commentaires d'écriture, des inscriptions, eh bien, tout cela existe. Hein. Je vous cite comme ça en vrac des pères de l'Église, des gens tout à fait sérieux et qu'on lit pour leur théologie, etc., qui parle de ces diaconesses. Clément d'Alexandrie, Origène, Pélage, Basile de Césarée, Épiphane de Salamine, Grégoire d'Antioche. On cite des femmes qui sont mères, mères de Saint Euthymius, Dionysia, d'autres qui sont moniales, certaines sont moniales mais pas toutes, et la plus connue c'est Olympias, Olympias, qui est higoumène, ça veut dire supérieure, supérieure d'un monastère qui jouxtait sa fameuse Sainte-Sophie et qui comptait jusqu'à 250 moniales. Et cette Olympias a été ordonnée, le mot est bien là, hein, kairotonia, avant l'âge requis, hein, on avait dit 40 ans, et ben, on l'ordonne avant. Donc voilà, on voit qu'il y a des exceptions. Elle fut ordonnée diaconesse avec trois de ses compagnes, par le patriarche Nectaire, qui est celui qui a dirigé le concile de Constantinople. Donc on peut croire qu'il connaissait son métier. Hein. Il a quand même ordonné, et Saint Jean Chrysostome lui a adressé 17 lettres. 17 lettres à Olympias. Voilà. On peut encore en trouver d'autres. Sainte Ségolène, au 7e siècle, après la mort de son mari. En 636, une certaine Emengo, diaconesse, sœur du diacre Grima de Trèves. C'est ici tout près. Hein. Voilà, frère et sœur, diacre et diaconesse. Et l'évêque Jean-Pierre Delville m'en a parlé dans un mail, hein, le jour où on a ordonné des diaconesses de l'église syrienne à Liège, il n'y a pas très longtemps. Plus d'une vingtaine de diaconesses sont reprises dans le calendrier de l'église orthodoxe, hein, comme bienheureuses, comme saintes, etc. Plus d'une vingtaine. il y a de multiples inscriptions funéraires qui témoignent de certains noms de diaconesses, et d'autres sont anonymes, on ne connaît pas le nom, mais on a inscrit diaconesse sur la tombe. Et à ce propos-là, et je termine par là, je vous montre un document tout à fait remarquable ici, d'une certaine Moira Scimmi, c'est une Italienne de Milan, qui a repéré ici tous les textes où on parle de diaconesse et toutes les inscriptions sur les tombes. Il y en a 62 repérées ici. Voilà, il y en a 340 en tout. Donc voilà, je crois que le premier millénaire est bien documenté sur la question de l'existence des diaconesses, ça c'est vrai, surtout en Orient, évidemment, beaucoup moins en Occident. Sur la question de ce qu'elles faisaient, c'est un peu plus difficile à dire. Sur la question de leur ordination, bénédiction, institution, etc., là, c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'on passe du syriaque au grec, du grec au latin, etc. Est-ce que les mots ont le même sens et tout ça? Voilà, c'est un peu plus compliqué. La prochaine fois, donc, je prendrai le diaconat féminin au second millénaire. Ce sera surtout le début du second millénaire et, je dirais, sa disparition par rapport au premier. Et j'aurai même l'audace, la troisième leçon, de brosser l'histoire du diaconat au troisième millénaire. Voilà. Je vous remercie.